Bon, chers collègues, on va vous proposer de commencer. Simon Flandin, qui est là-bas, va venir avec moi. Je suis Patrick Picard, responsable du centre Alain Savary, donc qui organise ces deux jours de formation. Juste le temps qu'on finisse de s'installer, je vous montre ce que c'est le centre Alain Savary, parce que vous n'êtes pas forcément obligé de savoir dans quel lieu vous êtes. Donc vous êtes à l'intérieur de l'Institut français de l'éducation, qui est structuré avec un certain nombre de services, et qui lui-même fait partie de l'École normale supérieure de Lyon. Le centre Alain Savary travaille sur un certain nombre d'objets qui sont ici énoncés. Donc vous voyez bien qu'il y a un certain kaléidoscope. Un certain nombre de collègues du centre Alain Savary sont présents dans cette formation. Donc on travaille globalement sur l'éducation prioritaire à partir des objets de savoir, à partir des dispositifs ou à partir de l'entrée de la professionnalité enseignante. Nous sommes co-concepteurs de la plateforme Neopass. Nous travaillons aussi sur un certain nombre d'objets qui concernent les dispositifs de partenariat, la formation de formateurs, la place des parents à l'école, tout un tas de questions qui ont l'air comme ça un peu en désordre, mais qui s'intéressent globalement aux objets à partir d'une méthode qui est toujours à peu près la même. Essayer de comprendre une question vive dans les métiers, essayer de regarder quels sont les opérateurs, quels sont les chercheurs, quelles sont les équipes qui travaillent sur cette question-là, les agglomérer, les faire travailler ensemble, essayer d'identifier s'il y a des questions de recherche qui sont des questions vives. Ensuite, allez voir sur le terrain, dans la vraie vie. Vous verrez que j'utilise assez souvent cette expression. Tu veux pas venir là, Simon ? Essayez d'utiliser cette expression de la vraie vie pour aller voir comment ça se passe. On passe beaucoup de temps à filmer dans des classes les objets pour essayer de comprendre les problèmes que pose la question aux gens qui travaillent. Et puis, on essaye de produire des outils, des situations de formation, de la formation de formateurs. On travaille beaucoup en région à monter des formations de formateurs avec les DASEN, les recteurs, etc. Et on pense que sur ces objets-là, on ne peut comprendre les problèmes éducatifs que si on travaille aux trois échelles, hein, c'est-à-dire comprendre à la fois la question des difficultés d'apprentissage des élèves, comprendre les difficultés professionnelles des enseignants, des personnels qui travaillent, et puis essayer d'intégrer tout ça dans des questions de pilotage, parce que souvent, c'est parce que l'articulation entre les trois niveaux fonctionne moyennement bien, que les choses sont difficiles à chacun des étages. Donc voilà en gros sur quoi on travaille. Je voulais, maintenant que vous êtes installés, on va pouvoir sérieusement parler de ce qui nous approche ici. Et c'est Simon qui va le faire. Simon Flandin, donc, qui travaille au centre Alain Savary, qui est professeur d'éducation physique et qui est actuellement doctorant avec Luc Ria, sur la question des usages par les débutants de Neopass Action. Mais ce n'est pas de ça dont il va vous parler.
Merci pour cette magnifique introduction. Alors, l'origine, la genèse de cette formation, donc c'est la première édition pour ce qui concerne le travail du centre Alain Savary. Donc la genèse, c'est en fait de se dire, certes, il y a une prescription grandissante sur les professionnels de la formation concernant les modalités hybrides. Donc on le voit dans l'éducation nationale, mais aussi dans d'autres corps de métier, puisqu'on est amené à travailler avec d'autres corps de métier. Il y a une injonction assez forte sur les professionnels de la formation de mettre en œuvre de nouvelles modalités de formation qui empruntent donc à ce qu'on appelle l'hybride, souvent dans l'alternance entre distanciel et présentiel, synchrone et asynchrone, mais on verra que il est intéressant de ne pas limiter l'hybridation de la formation à ces seules modalités-là, nous semble-t-il. Et l'idée, c'était de se dire, puisque la prescription est grande, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de se questionner sur le véritable intérêt pédagogie, didactique, je ne sais pas comment est-ce qu'il faut l'appeler, mais le véritable intérêt formateur de l'hybridation en formation. Est-ce que, justement, utiliser de nouvelles modalités permet d'impulser de nouvelles dynamiques en formation et donc d'avoir des effets sur le développement professionnel des gens qu'on forme? Donc nous, évidemment, le postulat qu'on fait, c'est que c'est le cas. Et donc le pari de ces deux jours, c'est d'essayer de voir comment... en composant avec vos propres préoccupations et attentes de formateurs, on peut arriver à mettre en œuvre de nouvelles modalités de formation, alors des modalités qui ne seront pas nouvelles pour tous, parce que chacun à votre niveau, vous avez des expériences diverses de l'hybridation, pas tous, mais pour la plupart d'entre vous. Et donc, on essaiera de voir comment hybrider la formation peut permettre de répondre à un certain nombre de vos préoccupations. Alors, modestement, on verra, on va travailler sur ces questions-là, de façon à ce que répondre à la prescription ne se suffise pas en tant que tel, mais vous permette d'avoir de nouveaux pouvoirs d'agir en tant que formateur. Bon, voilà, j'en dis pas plus là-dessus. Qu'est-ce que tu as mis derrière moi, le programme ? Donc, comme l'avait dit Patrick dans l'un des derniers mails qu'il vous a envoyé, on a un programme prévisionnel qui nous permet de cadrer donc le déroulé des deux jours. On a tendance à ne pas trop hésiter à le modifier en fonction des événements, de la demande, de vos attentes. C'est pourquoi il ne faudra pas hésiter à nous faire part de vos inquiétudes par rapport au déroulé de la formation. À ce titre, si tu peux me projeter l'espace partagé pour que j'en dise rapidement deux mots. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, on a essayé aussi d'organiser cette formation de formateurs sur une forme partiellement hybride. Donc, vous avez déjà reçu des questionnaires que vous avez remplis pour la plupart. Donc, ça sera la première partie de notre travail. C'est l'une des modalités dont on va parler. On a créé un espace numérique de travail. Qui nous a donc servi à la fois, enfin qui nous sert à la fois, qui nous a servi en amont pour organiser les deux jours entre les différents intervenants, et qui va nous servir pendant ces deux jours à la fois comme espace de stockage pour des documents qu'on voudra mutualiser, et à la fois pour vous laisser la possibilité, enfin nous laisser la possibilité à tous de partager des ressources, que ce soit des liens pour des sites web ou des documents de quelque ordre qu'ils soient. Le premier document qui s'appelle Ingénierie hybride, c'est un document que Patrick a élaboré, sur lequel on va travailler dans une première partie, qui va nous servir à essayer de réfléchir à une grammaire commune concernant les modalités hybrides de formation. C'est-à-dire, est-ce qu'on parle bien de la même chose quand on parle des modalités hybrides de formation ? Oui, si oui, quelles sont-elles ? Sinon, il faut qu'on en discute, et qui nous permettra ensuite donc du coup de parler de la même chose quand on parlera des modalités hybrides. On y reviendra tout à l'heure dans le travail. Il y a un dossier qui s'appelle liens utiles, dans lequel j'ai mis des liens web vers certains sites qu'on va mobiliser sur ces deux jours et qui nous semblent intéressants à utiliser pour différentes fonctions hybrides. Donc ça fait partie des choses que vous ne devez pas hésiter à enrichir si vous connaissez des sites qui vous semblent incontournables ou intéressants par rapport à votre propre activité. Vous n'hésiterez pas à les mettre dans le dossier. De même que j'ai fait un dossier référence dans lequel si d'aucuns d'entre vous veulent alimenter la réflexion théorique sur l'hybridation, vous pouvez y déposer vos documents. Et puis, comme je disais aussi, Patrick, dans l'un des derniers mails qu'il vous a envoyé, vous avez proposé, pour ceux qui le voulaient, d'essayer de mettre en forme, en quelques diapositives, une opération de formation hybride que vous auriez menée. Donc, ce que je vous demanderais également, ça serait de la déposer donc dans cet espace, de sorte qu'on puisse les consulter à un moment donné. Le dernier document qui se trouve dans ce dossier, c'est un simple document type traitement texte que j'ai appelé question en suspens, que vous pourrez donc alimenter avec des questions qui vous sembleraient intéressantes de traiter et que vous n'auriez pas l'impression qu'elles le sont lors de ces deux jours. Donc, ce que je vous invite à faire.
Ça peut être aussi une modalité de régulation au fur et à mesure qu'il vous vient une idée, que vous puissiez poser là, y compris pour réagir en privé à ce que dit un intervenant ou une collègue ou un collègue. Enfin voilà, c'est un espace partagé où on écrit des trucs à nous qui ne sont vus que par nous, mais pour lesquels tout le monde a droit de lire et d'écrire.
Ce qui vous permettrait par exemple à la fin de la première journée de dire « j'ai l'impression qu'on ne va pas aborder ça, ça me semble assez important ». Je vais m'autoriser à formuler la question dans l'espace question en suspens.
Mais rien sur le physique, par contre.
Alors, sur la journée d'aujourd'hui, et on va se mettre tout de suite au travail, on a essayé d'organiser les choses en alternant, donc, des moments de travail en petits groupes et des moments d'intervention. Les personnes qui interviennent ici sont des personnes qui interviennent toutes à titre bénévole, qu'on ne rémunère pas pour ça, comme le sont toujours tous les formateurs qui viennent ici, je voulais le souligner. Donc, ils prennent de leur temps pour venir travailler avec nous, par amitié pour nous et parce que le travail les intéresse. Ce sont soit des personnes de l'IFE, comme Gilles, par exemple, soit des personnes d'autres circuits, ce sont soit des formateurs, soit des universitaires. Mais voilà, c'est le principe dans nos formations. Et donc, le principe qu'on va avoir, et pour lequel, comme certains d'entre vous ne sont pas coutumiers de nos formations, j'insiste sur le fait que les personnes qui vont vous parler vont avoir des points de vue différents, et il va y avoir des controverses entre eux, et c'est ces controverses qui nous intéressent. C'est-à-dire, ce qu'on va vous demander, c'est d'essayer de dire en quoi, entre ce que dit A et ce que dit B, il y a des écarts qui peuvent être importants, et il y a besoin de le travailler. Il y a une chose sur laquelle je tiens à signaler que nous avons été particulièrement mauvais, c'est que vous avez remarqué que l'ensemble des intervenants sont des mâles, et donc nous nous en excusons. C'est une conséquence inopinée de nos propres affects, mais en tout cas, c'est comme ça. J'espère donc que les filles vont enfin prendre le pouvoir sur ces questions. Je vois déjà avec plaisir qu'il y a plus de filles que de garçons sur une formation qui parle de technologie. C'est déjà un bon point. Alors, sur ces questions-là, on va travailler dans un premier temps en petits groupes, à partir de ce que vous avez écrit. Je vais essayer d'être assez précis sur la consigne, j'avais essayé de l'être déjà. Donc, comme tout le monde a fait ses devoirs, on va aller assez vite. Et donc, ce qui va nous intéresser, c'est de mettre en ordre collectivement ce qui, sur les questions que nous traitons, est partagé ou au contraire fait débat entre vous. De manière à ce que, à 10h30, nous ayons un diagnostic de la situation autour de, voilà, dans notre groupe, quelles sont les questions qui vraiment font consensus, voilà les points de vue qui sont de nature à être au sein de notre groupe, plutôt à l'heure actuelle, en état de discussion, voire d'opposition, voire de controverse. Donc, pour cela, nous allons diviser le temps qui nous sépare de 10h30 en trois morceaux. Un petit moment personnel, mais que on va réduire au minimum, puisque vous êtes censé l'avoir déjà fait. Donc là, je vais juste travailler pour Kevin et Vanessa, qui n'ont pas fait leur devoir à la maison alors que c'était demandé. Et puis, dès que ce petit temps va être fait, vous allez vous mettre en petit groupe avec l'idée d'échanger sur une seule des questions. Vous choisirez au sein du groupe. Je n'ai... dans le document ici que j'ai photocopié, identifier que quatre questions. Première question, quels sont les problèmes que vous rencontrez en formation? Deuxième, d'après vous, qu'est-ce qu'une formation hybride? À quoi peut servir l'hybridation? Et citer des outils qui vous semblent être, etc. Donc, sur cette dernière question, citer des outils, il n'y a pas de travail à faire. Donc, vous n'avez donc que trois questions sur lesquelles vous avez à discuter. Je vais vous donner immédiatement photocopie de ça. À l'issue de ce temps de travail qu'on va arrêter vers environ 10h10, 10h15, on essaiera de faire une synthèse au tableau et on utilisera un logiciel de carte mentale pour essayer de voir si on peut scénariser cette discussion entre nous. Le but, c'est que ensuite les différentes interventions qui vont avoir lieu devant vous vous permettent de raisonner dans les deux sens du terme par rapport à ces questions professionnelles. Hein, c'est vraiment ça le but. On va partir de vos questions professionnelles et l'évaluation de la formation, elle se fera sur est-ce qu'on discute bien de nos problèmes de métier et non pas, ils nous ont donné tout ça, mais c'est bien gentil, mais qu'est-ce que j'en fais pour mon travail? Le temps d'atelier de la fin de la journée, les consignes vous seront reprécisées tout à l'heure en fin de journée pour qu'on évite de faire trop long maintenant. Donc, je distribue les derniers états du questionnaire, mais globalement, il n'est pas très différent de la dernière version que je vous ai envoyée. Vous avez un travail individuel et ensuite, on se met en petit groupe sur cette question-là. Vous essaierez de travailler avec les gens qui sont autour de vous, même s'ils ne vous conviennent pas tout à fait.
Alors, avec mes excuses pour... les frustrations que va engendrer la poursuite du travail en collectif. Alors, je l'ai pas explicité tout à l'heure, mais c'est aussi quelque chose
d'important sur ces deux jours que je vais préciser maintenant. On est en train de travailler sur une certaine modalité de formation qui donc mêle asynchrone et synchrone. On a travaillé donc sur un questionnaire qu'on vous a envoyé en amont, qui essayait de jauger un petit peu vos préoccupations, vos attentes, vos perceptions, vos conceptions de l'objet de formation d'aujourd'hui, sur lequel on commence par travailler actuellement. Donc cette modalité de travail, elle vaut autant pour la formation de formateurs de ces deux jours que pour outiller votre propre boîte à outils de formateurs hybrides. Je pense que c'est important de l'expliciter. Gilles en dira deux mots aussi plus tard. Bon, voilà, je le précise. Ce qui fait que même si on n'utilise pas, on n'exploite pas à fond cette modalité de travail, le fait que vous l'ayez vécu vous permet de la réinvestir à toutes fins utiles. On y va. Donc, vous voyez, Patrick a commencé la mise en forme donc sur les trois questions qu'on a choisi de retenir. Et donc, on va essayer de faire cette mise en ordre entre ce qui est partagé d'après ce que vous avez pu lire de ces réponses à ces questionnaires ou ce qui fait plutôt discussion sur ces différentes questions. Donc, est-ce que quelqu'un veut se faire le porte-parole de son groupe et faire la proposition de son groupe pour démarrer et alimenter les échanges?
Je redis bien qu'on ne cherche pas à discuter entre nous, on cherche à comprendre ce qui est exprimé dans le corpus qui est devant nous. C'est-à-dire qu'il y a des tas de choses qui ne sont pas explicites dans le corpus, mais pour l'instant, on regarde le corpus. On regarde ce que vous dites, ce que dit l'hétérogénéité de ce groupe, et on n'engage pas la discussion sur ce qu'on pense de ce qu'ils disent.
Alors donc, on a travaillé sur la question 1, problème de formateur. On a trouvé qu'il y avait beaucoup de préoccupations qui étaient partagées. La gestion de l'hétérogénéité, qui revient souvent. On a remarqué que finalement, c'était à la fois des problèmes de formateurs et des problèmes de personnes qui sont en classe, hein, de toute façon. Problème du manque du temps, de manque de temps. Alors là, c'est plutôt des interventions ponctuelles au parcours de formation. Il y avait tout ce qui relevait de la
chaque
motivation.
Chaque téléphone, c'est l'apéro, hein, on est d'accord.
Ouais. Tout ce qui relevait de la motivation des formés, des apprenants. Enfin, donc l'engagement dans la formation, les problèmes de public contraint. Les problèmes de cibler les attentes. Ensuite, et puis il y avait une volonté de la part de certains formateurs de changer les pratiques de classe.
Toujours d'en partager ou d'en discuter du coup?
Je vois ça plutôt d'en partager, mais ça peut faire discussion.
Mais dans le corpus.
Est-ce que vous avez
et puis apporter une plus-value, donc changer les pratiques. Alors je ne sais pas si ça va dans le même sens, changer les pratiques et la plus-value, je ne sais plus.
On m'avait dit que c'était ce qui faisait discussion. Ouais.
Donc c'est ce qui faisait débat.
J'aurais besoin que vous explicitiez le sens du mot plus-value, parce que je ne suis pas capable de comprendre ce que vous voulez dire.
Alors certains... Est-ce que la formation hybride va apporter une plus-value? Quelle plus-value? C'est toi? Ah oui. Est-ce que la formation hybride va apporter une plus-value par rapport aux formations? Et puis, il y a aussi, dans certains, il y a une articulation entre la théorie et la pratique. Alors, il y a très peu d'occurrences là-dessus, donc, mais il y en a qui parlent, donc je pense que ça fait discussion.
Ça va être de plus en plus vite, hein, normalement.
Pourtant, vous êtes meilleur que l'autre groupe.
Hein. D'accord. L'équilibre entre individuel et collectif. Le suivi des stagiaires dans la durée.
Il y a cette idée dans ce qu'Éric a dit, question du manque de temps et de comment on passe du ponctuel au parcours, qui était une préoccupation partagée. Voilà, on est à la SERP. Hein, là. On pose le paysage de... On essaie de chacun voir un peu ce qu'on comprend du problème. Il va de soi que vous vous embêtez pas à prendre des notes là-dessus, puisque ça sera dans l'espace partagé.
Comme c'est bien. On prend les groupes dans l'ordre, qu'on gagne un petit peu de temps. D'accord, on va peut-être terminer avec cette question alors. Quel autre groupe a traité cette question? quelque chose à rajouter ou si vous tombez sur les mêmes résultats, c'est plutôt bon signe. On va pas plus loin sur la réflexion. On reprend le travail descriptif.
Ok. Deuxième thématique.
La définition de l'hybride. Un groupe qui veut commencer.
Qui a traité ça? Vous êtes joueur. Personne n'a traité la question de quelle est la définition de hybride. Très bien.
Alors, si on s'attendait.
Je vois que vous avez reculé devant la tâche. oui, là-bas, non?
On n'a pas été jusqu'à faire discussion. Dans le partage, on a trouvé apprentissage en présentiel ou en classe virtuelle et à distance accompagnée ou en autonomie.
C'est un deuxième item ou c'est le même item?
Ben c'est d'un côté, les deux vont ensemble en fait. Collectif ou individuel, synchrone ou asynchrone.
Ça veut dire quoi?
C'est en temps réel ou en temps différé. Ensemble ou chacun avec son propre temps, avec des mises en commun ensuite. Oui, de temps différé. Ouais. Et utilisant les technologies numériques. Voilà. Et on n'a pas été jusqu'à faire discussion.
Ok, est-ce qu'il vous a semblé qu'il y ait des choses qui faisaient discussion pour le coup, là, dans même vos lectures individuelles, même si vous ne l'avez pas explicité?
La question de la classe inversée, est-ce que la formation hybride.
Donc, pour ce que vous avez relevé comme étant partagé, vous avez quelques occurrences à chaque fois qui permettent de dire globalement ça revient. Ok. C'est bon, Patrick?
Bon, je sais pas, mais.
La dernière question?
À quoi peut servir l'hybridation, donc autonomie, implication des étudiants.
À développer l'autonomie, c'est...
Développer l'autonomie, même si on pense que ça dépend du scénario qui est mis en œuvre dans la formation. Rationaliser la formation, c'est-à-dire que plusieurs personnes pensent que l'hybridation permet d'éviter de perdre du temps sur des problèmes qui peuvent être traités à distance. L'accompagnement dans la durée revient plusieurs fois, hein, dans des termes prolonger le temps de formation, suivi, support aux étudiants. Alors ça, c'est rationaliser, c'est pas coûter moins cher, hein, c'est rendre plus efficace. Voilà. Et par contre, ce qui fait débat, c'est le coût de la formation, justement. Parce que ça ne coûte pas moins cher. Il nous semble que ça ne coûte pas moins cher. Si on compte la création des ressources, le temps de tutorat, etc., ça ne coûte pas moins cher.
Ok. Est-ce que tout le monde a... Je ne pense pas qu'on ait entendu tous les groupes, mais peut-être que... Vous n'avez rien à ajouter?
Mais on vous laisse quand même la possibilité, si quelqu'un ne se retrouve pas dans ce qui est dans la mémoire commune pour l'instant. Cynthia, non? Tu voulais dire quelque chose? Pas parce que tu es au fond de la classe.
J'ai pas mis...
Pouvoir accompagner, c'est bon?
J'ai entendu.
Je passe une seconde et puis tu prendras la parole.
Dans le partage, personnalisation des parcours.
C'est-à-dire, je traduis, vous trouvez que dans les phrases du corpus, il y a écrit beaucoup de fois personnalisé.
Pas forcément beaucoup de fois. Parce qu'on a pas forcément beaucoup de fois. Ça nous a un peu frappé quelques fois.
D'accord.
Parce qu'on n'a pas fait des comptes.
Que ce soit signifiant. D'accord.
Ou peut-être parce que ça nous parlait beaucoup et on avait envie que ça sorte.
Au choix.
Allez, c'est signifiant.
Ici.
Et les parcours. Et feedback.
Je ne comprends pas le lien avec feedback, excusez-moi.
Voilà, des retours possibles entre le formateur et l'étudiant plus, de façon plus personnalisée grâce aux outils.
Donc c'est une sous-question de personnaliser.
Le feedback est lié à la question de la personnalisation, d'accord.
Ok.
Guillaume et puis Eric.
Chez nous, on peut peut-être noter quelque chose en plus et qui a fait discussion. C'était plutôt sur le côté, est-ce qu'il y a des modalités pédagogiques spécifiques ? Donc on était à peu près partagé sur cette question-là.
Est-ce que hybrider, c'est de fait transformer ces modalités de formation ou est-ce que ce n'est pas systématique
ça ? Oui, ça revient à plusieurs...
Ça a lieu dans le cadre de la question, à quoi peut servir l'hybridation ?
Est-ce que j'exagère si je dis que la discussion que vous avez eue, c'est est-ce que l'hybridation implique forcément une transformation des pratiques pédagogiques de formation ?
Oui, exactement.
Je pense que donc on se comprend.
C'est ça. Est-ce qu'il faut réinventer des choses nouvelles ? Est-ce qu'on fait avec ce qu'on savait déjà, mais un peu différemment ? Enfin voilà, ça regroupe l'ensemble de ces questions-là, il me semble.
Okay.
Est-ce qu'il y a des pédagogies qui se prêtent mieux à l'hybridation ? Ou est-ce que ça favorise tel type d'activité ? Voilà.
Parle à tout le monde, s'il te plaît.
Il me semble que quand on pose la question à quoi peut servir l'hybridation d'après vous, ça renvoie aux représentations qu'on en a. On a peut-être déjà essayé des choses, mais et dans les représentations, il y a un mot qui revient, c'est impliquer davantage, c'est l'implication, la question de l'implication. Et pour nous, ça pose problème. Enfin, c'est pas une évidence, c'est pas partagé. Est-ce que c'est plus impliquant de faire de l'hybride que du présentiel ou moins ? Donc, dans les représentations, visiblement. Ça semble favoriser l'implication des stagiaires, mais c'est une question. Est-ce que ça impliquera plus le fait de mettre de l'hybride ou pas ?
Dernière remarque et puis on termine.
Dans la question d'après vous, à quoi peut servir l'hybridation ? On a recomparé nos notes et il nous manquait donc dans ce qui était partagé le fait de pouvoir travailler à distance. Enfin, à quoi peut servir l'hybridation ? À travailler quand on n'est pas là, quoi, quand on n'est pas sur place. Ensuite, on avait dit le gain de temps, gagner du temps. Et à discuter donc le fait que le formateur ait plus de souplesse dans son.
Alors ce qui est délicat des fois hein, pour dire est-ce que c'est partagé ou est-ce que ça fait discussion, c'est aussi sur le fait que la question est ouverte, on a 36 réponses, puis les gens se disent pour moi peut-être que hybridation ça sert majoritairement à ça, ce qui veut pas dire que c'est exclusif d'autres choses qu'on va retrouver, donc c'est là aussi la difficulté que vous avez à dire ça c'est plutôt partagé ou ça fait plutôt discussion.
Ok, alors vous relisez s'il vous plaît le paysage, est-ce que c'est assez gros pour que les élèves du fond puissent lire ou pas du tout ? Bien, alors ce qu'on va vous proposer en 10 minutes, pas plus, c'est d'essayer de vous dire comment, en regardant ces choses-là, avec Simon, nous comment on avait essayé de réfléchir à la question. En simplement proposant un certain nombre de bouts de discussion là-dessus. Le PowerPoint là, je vais en dire quelques diapos et il est disponible dans l'espace partagé, mais on va y revenir après. Dans ce qu'on va avoir à traiter comme question là dans les deux jours, c'est je voudrais insister sur un point de vue très spécifique qui est que quand on travaille et quand on fait de la recherche, les focales sont pas forcément les mêmes. Et donc du coup simplement redire que les points de vue de recherche qu'on va vous présenter, ils ont comme force qu'ils prennent un point de vue sur le monde et que par définition, prendre un point de vue, c'est regarder les choses spécifiquement et que le formateur, globalement, il est toujours un peu en tension entre ces deux points de vue, à quel moment lui aussi, il est quelqu'un qui regarde le monde par un point de vue. Et à quel moment il doit composer avec la complexité du réel des personnes qui forment hein, dans ce va-et-vient. Si je le dis très très vite, mais encore une fois, c'est juste pour qu'on pose le paysage, on y reviendra. Il y a plein de disciplines de recherche qui sont utiles pour expliquer le monde. Et puis, depuis un certain nombre d'années, s'ajoutent à ces disciplines qui s'intéressaient spécifiquement au processus d'apprentissage et d'enseignement, un certain nombre d'analyses. Encore une fois, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas le temps de tout regarder, je pose juste le paysage. Qui sont des disciplines de recherche qui regardent, à partir du travail réel, pas forcément du tout du travail enseignant, et qui essaient de comprendre comment ça marche le travail, comment font les gens pour faire ce qu'on leur demande de faire, hein, et ce que ça leur demande, en tant qu'enseignant, en tant que formateur, en tant que poseur de bordure de trottoir, en tant que trailleur de chèvres, ou je ne sais quoi. Du coup, une des questions qui est intéressante pour la formation, là je reprends là un modèle de Roland Guagou, c'est que, en gros, il y a deux grands paradigmes pour construire de la formation. Je m'arrête un tout petit peu sur cette diapo. En bleu, les scénarios qui sont, globalement, on essaye de comprendre l'action, on essaye d'accompagner l'action, d'y voir clair dans l'action, pour qu'on développe, dans cette observation attentive de l'action, des connaissances, des théorisations qui vont aider à développer de pouvoir d'agir parce qu'on va être en situation d'analyser, de comprendre ce qu'on fait en utilisant des modèles. En rouge, il y aurait plutôt un scénario inverse qui serait on commence par donner des connaissances aux gens en disant on pense qu'avec ces connaissances, vous allez pouvoir modifier ce que vous faites grâce à ces connaissances. Et du coup, quand on a discuté de ça avec Simon, il m'a dit, bah oui, moi, dans ma langue, il y a d'un côté un scénario qui serait comprendre pour transformer. Et puis, vous avez compris que dans l'autre sens, il y a un scénario qui serait autour de transformer pour comprendre. Donc, pour l'instant, moi, je suis pas du tout dans, voilà quel est le bon modèle, mais comprendre qu'on a des conceptions théoriques qui vont faire qu'on va jouer entre les deux modèles. Et du coup, j'ai essayé de représenter un petit peu ce que ça pouvait être une dynamique de formation hybride. Et en discutant et en travaillant, en discutant avec Simon, en mettant en commun ce qu'on avait à penser là-dessus, on s'est dit finalement, ce qui peut être quelque chose qui serait un espèce de scénario type d'une formation, c'est que d'une formation hybride, c'est que, par définition, il y a une variable temps, que je symbolise en bleu, qui a des moments de présentiel. Je pense pas que quelqu'un ait dit qu'une formation hybride, c'était une formation où le présentiel disparaissait. Et que, à ces moments de formation en présentiel, vont s'ajouter, s'intercaler, dans les intervalles entre ces différents temps, un certain nombre de modalités. Donc, je les montre ici, des modalités qui sont d'un côté, du côté de des choses qu'on peut faire sur des systèmes numériques à distance. Alors, poser des questions à des gens pour qu'ils répondent, donner des conférences, leur montrer des extraits de situations de travail, leur proposer des contenus de recherche, leur demander d'avoir entre eux ou en intermédiaire un certain nombre d'interactions. Donc ça serait tout ce qui est du côté de des choses qu'on utilise dans l'utilisation des ENT. Et puis de l'autre côté, ce que vous avez énoncé, hein, il me semble, là dans le recueil que vous venez de faire, c'est-à-dire, oui, mais il y a des tas de choses qu'on peut faire en hybride, mais qui n'utilisent pas des technologies et qui sont du côté de l'alternance, cette fois, entre la situation de formation et la vraie vie. Et du coup, une autre manière d'hybrider la formation, c'est d'articuler le temps collectif où on travaille ensemble sur des situations avec des moments où on va aller travailler à comprendre ce qui se passe dans ces situations. Et là, ça va être tout ce qui va être du côté de aller regarder, aller filmer, aller recueillir des données, expérimenter des choses et en parler quand on revient, accompagner les gens sur le terrain, aller travailler avec eux sur le terrain pour comprendre ou aider à comprendre ce qu'ils font, et puis développer du travail collaboratif entre pairs sur le terrain. Alors, je ne doute pas que ce schéma soit incomplet, mais il me semble que, Simon parlait tout à l'heure d'éléments de grammaire, on pourrait s'amuser à essayer de lire les différentes formations que vous allez nous présenter sur ce que c'est vos fonctionnements hybrides, à quelles briques vous faites appel. Et donc, ça va être une des propositions qu'on va vous faire. C'est que lorsque vous allez nous parler... Oui, il y a quelqu'un qui travaille à distance en ce moment et qui est en train de modifier des documents Google partagés. C'est l'idée de se dire, nous, par exemple, on a monté cette formation. Alors, j'exemplifie, puis ça sera, j'arrêterai de parler après. On a fait cette formation-là. On était dans un établissement ZEP, dans une formation locale de 4 fois 1 jour. Eh bien, les choses qu'on a utilisées dans notre formation hybride, alors là, par exemple, je vous parle d'une formation que j'ai montée, mais peu importe. On a d'abord fait ça, puis on a fait ça en présentiel, et à chaque fois, j'essaye d'indiquer quel était le but que le formateur essaye de mettre en avant dans sa session 1 de la formation. Puis, on a fait des choses, puis on a eu un deuxième présentiel avec un deuxième but. Voilà. Et donc, il me semble, c'est une proposition qu'on vous fait, qu'on pourrait essayer de voir si cette grammaire-là, elle nous permet de raconter nos formations selon une grammaire commune, mais sans vouloir les normer. Est-ce que ça nous permet de les décrire et de les raconter ? Et puis, j'ai mis aussi un certain nombre de points rouges, là, qui sont ce que moi, il me semble qu'il faut qu'on ose échanger en formation. C'est la question des moments à risque, les passages à risque, les moments difficiles dans une formation. Je ne vais pas aller plus loin ici, si vous voulez, on en reparlera. Mais il me semble que c'est intéressant d'identifier quand est-ce que dans une formation, on a un passage à risque et pourquoi. Il est où le passage à risque ? Du côté des stagiaires, du côté du formateur. Donc, je vais arrêter là, on n'a finalement que 5 minutes de retard. C'est juste cette problématisation que je voulais vous proposer. C'est-à-dire que on se dise, voilà, ce qui pourrait être un jeu entre nous, c'est de progressivement apprendre à lire des situations à partir d'une grammaire commune, et puis essayer aussi d'apprendre à lire les différentes interventions de nos spécialistes, là, qui vont venir vous présenter des choses, pour qu'on se dise, mais au fait, avec quel modèle théorique il vient nous parler, comment ça s'articule ? En sachant que le petit bout de choses qu'on a fait là avec Simon, il est sûrement incomplet et que vous allez nous rajouter des éléments de grammaire qui sans doute sont absents de la définition qu'on a indiquée là, parce que nous-mêmes, on n'a pas forcément eu assez de temps pour préparer la formation ou qu'on n'est pas assez compétent. Enfin, problème de formateur habituel. Est-ce que quelqu'un veut commenter rapidement ce que je propose là, donc, ou est-ce qu'on peut s'arrêter là et donner la parole tout de suite à Gilles ? Oui. Ben, du coup, c'est effectivement ce qui nous a sauté aux yeux quand on a lu les questionnaires, hein, c'était que les pratiques de formation qu'on connaît, nous, dans cette question de l'hybridation, il y a une des questions fondamentales, hein, que moi je pose toujours, mais c'est comment on fait pour amener le réel dans une formation? Comment on fait pour que la formation, elle nous parle bien de la vraie vie et pas d'un monde qui n'aurait rien à voir avec, hein, vous savez, la formation où on repart en disant c'était vraiment intéressant, mais alors... Effectivement, je pense que... Voilà, c'est pour ça que c'est intéressant qu'on regarde cette géographie complète. Et encore une fois, n'hésitez pas à dire, attends, je pense que là, il manque un grain, là, dans ta grammaire. Il y a un truc, tu nous as pas du tout parlé des adjectifs et il faudrait qu'on en parle, ou tu nous as pas... Enfin, voilà.